Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver en ce début de semaine avec toute l'équipe de l'heure du crime, avec Bernard Gilles, Thierry Defay, Thibault Lefloc, Florian Martin pour les archives sonores qu'on va entendre tout à l'heure. Puis on salue l'arrivée également près de Perrine Suquet aujourd'hui de Blandine Hugonnet, voilà, qui rejoint notre équipe et qui va désormais nous aider à composer et à réaliser toutes ces émissions. Et aujourd'hui, nous consacrons l'heure du crime à une série de faits divers spectaculaires qui ont eu pour cadre la région de Chamonix, la Mecque de l'alpinisme français dans les années 1960-1970. Il y avait eu le crash d'un avion de ligne dans le Mont Blanc, qui allait prendre d'ailleurs des allures d'affaires d'État. Il y a eu le sauvetage mouvementé de deux grimpeurs allemands dans les Drues. Et puis surtout, j'allais dire, le drame des Grandes Jorasses de février 1971, par lequel nous allons commencer cette émission. Pour en parler, j'ai invité deux journalistes passionnés de montagne et d'aventure. Antoine Chandelier, bonjour. Vous êtes journaliste et amoureux de la montagne, vous vivez dans la région de Chamonix, bien sûr, et vous venez de publier un livre tout à fait passionnant, La montagne en direct, la vie de René Desmaisons aux éditions Guérin. On y revient dans un instant. Et puis je salue également la présence dans ce studio de Christian Brincourt, bonjour.
Bonjour mon Jacques.
Voilà, Christian Brincourt, retour, bienvenue chez vous, hein, si j'ose dire, voilà, parce que vous avez travaillé pendant près de 11 ans dans cette maison, à la fois à cheval sur Radio Luxembourg et RTL,
oui, oui.
Bien sûr, entre 60
et... Ça s'appelait Radio Luxembourg.
Voilà, exactement. Et vous aviez d'ailleurs publié des souvenirs de vos grands reportages en montagne, à la même maison d'édition, l'édition Guérin, ça s'appelait Envoyé spécial. Alors, le personnage central de cette émission, notre fil rouge, c'est donc René Desmaisons, l'homme aux 1000 ascensions à travers le monde. Il avait grimpé, bien sûr, dans les Alpes, mais aussi dans les Andes, dans l'Himalaya, auteur de 114 premières qui ont été autant d'exploits, et ces exploits sont accompagnés parfois de drames dont nous allons parler. Alors première question, elle est justement pour vous deux, Antoine Chandelier et Christian Brincourt, qu'est-ce que représente pour vous encore aujourd'hui dans le monde de l'alpinisme quelqu'un comme René Desmaisons? Antoine Chandelier.
Le personnage de René Desmaisons dépassait le cadre et le champ de la montagne, c'était un des grands aventuriers français. Il était l'équivalent pour les Alpes et pour la montagne d'un Tabarly à la mer.
Ouais. C'est donc, oui, c'était un numéro 1 au hit parade des grimpeurs à son époque, quoi, avec des moyens bien différents de ceux d'aujourd'hui.
Alors, tout à fait, c'était un novateur qui a fait évoluer sa pratique.
Et vous, Christian Brincourt, vous l'avez bien connu
Moi, j'ai bien connu, c'était mon ami, c'était en même temps un garçon qui avait habité. Il était habité par deux critères importants, c'était le plus grand. Enfin, disons l'un des plus grands, on ne va pas se fâcher avec les gens de Chamonix qui nous écoutent, il y a quand même des anciens de mon âge aujourd'hui qui doivent écouter tout ce que je suis en train de dire là et qui doivent dire, moi, c'était peut-être, moi aussi j'étais grand. pense à
enfin, lui, il a fait beaucoup
mais
parler
enfin,
de lui.
Mais enfin, lui, il, a fait, il avait 114 premières, mais il avait un gros problème, c'est qu'il n'était pas né à Chamonix.
Ouais. Il était périgourdin,
et quelqu'un qui n'est pas né à Chamonix et qui entre dans le rond de lumière par son talent, par ses premières, brusquement rencontre certains problèmes psychologiques car il n'est pas de la vallée.
Ouais.
Et en plus, il a été le premier professionnel de la montagne car il a voulu vivre dans la montagne. Et comment vit-on de la montagne à cette époque? En se faisant connaître.
Voilà.
Et là, les problèmes commencent.
Parfois, voilà. C'est-à-dire en ramenant des photos, en publiant notamment dans Paris Match ou en faisant des émissions en direct sur RTL ou sur Radio Luxembourg, je ne sais plus. 1968, ça devait être déjà RTL d'ailleurs.
1968, nous avons eu une histoire que... assez spectaculaire.
Il m'a
proposé de gravir un glacier suspendu dans les Grandes Jorasses qui s'appelle le Linceul, et j'ai eu l'idée saugrenue de l'équiper avec un petit poste émetteur. Et nous sommes passés sur cette antenne pendant 10 jours dans la tempête, lui pendu sur un glacier incliné à 70% en pleine face nord par moins 30,
la hauteur de 3 tours Eiffel,
dans le vide absolu, sur une face nord qui va jamais le soleil, c'est une aventure absolument incroyable. Ouais. Et il l'a fait, et les auditeurs de Luxembourg l'avaient vécu à l'époque.
Voilà, et vous lui demandiez le matin c'était quoi votre petit déjeuner ce matin? Il vous répondait:
de l'eau tiède, Christian, de l'eau tiède. Mais encore, tu as des biscuits encore? Je n'ai plus rien que de l'eau glacée à boire.
Exactement. Antoine Chandelier, encore un mot sur ce personnage. Il avait mauvais caractère.
C'était un caractère.
Ah,
mauvais,
c'était
un caractériel.
Un Disons qu'il avait un caractère, c'est une forte personnalité, c'était un rebelle. Dans ce milieu un peu confit, hein, très traditionnel et conventionnel qu'est la montagne toujours, bah c'est quelqu'un qui va justement imposer ses propres règles. Il va arriver, il est plus fort que les autres. Il fait des choses incroyables et puis il maîtrise les moyens de communication que les guides de Chamonix, eux, sont plus timorés, plus taiseux, ouais, comme le sont les gens de la montagne. Il va arriver avec cette image un peu rebelle, cette volonté de bouleverser les codes. Mmh. Et ce qui fera dire à d'aucuns qu'il avait son caractère.
Et il est rejeté par certains guides qui n'acceptent pas que l'on vende la montagne.
Alors, parfois, on frôle le drame. Enfin, on frôle le drame. Non, là, on va être dans le vrai drame avec l'affaire du drame des Grandes Jorasses. Des millions d'auditeurs et de téléspectateurs aussi, parce que toutes les télévisions étaient sur place, ont vécu ce drame quasiment au jour le jour pendant très longtemps. Lui, a écrit un livre après 342 heures dans les Grandes Jorasses. Ce drame va coûter la vie à un jeune alpiniste prometteur qui avait, je crois, 23 ans à l'époque, qui s'appelait Serge Gousseau, qui allait devenir guide de haute montagne, mais qui était quand même quelqu'un d'entraîné, qui avait du talent. Et René Desmaisons était parti avec lui pour cette ascension. Et puis ils ont été bloqués par le mauvais temps à 300 mètres du sommet. Ils ne pouvaient plus ni monter ni redescendre et ils n'avaient plus rien à manger. Ce drame a créé par la suite une polémique, mais ça on y viendra avec vous dans un instant, parce que il n'a pas appelé les secours tout de suite, ou on a pensé qu'il n'avait pas appelé les secours tout de suite. Beaucoup ont attribué la mort de son compagnon d'escalade à ce qu'ils ont appelé l'orgueil de l'homme qui voulait s'en sortir tout seul. Alors, on va tout de suite se mettre dans le bain de cette époque-là avec une première archive d'RTL. Comme je viens de le dire, Desmaisons et Gousseau sont donc bloqués par le mauvais temps, à 300 mètres du sommet, situation précaire. L'inquiétude commence à monter, bien sûr, à Chamonix. Et dans le journal du 15 février 1971, on entend parler Simone Desmaisons, bien sûr, qui est fort inquiète.
Suspense dans le Mont Blanc pour l'alpiniste René Desmaisons. Suspense dans le Mont Blanc pour l'alpiniste René Desmaisons et son camarade Serge Gousseau. Les deux hommes, qui tentent la première ascension directe de l'éperon Walker, sont en difficulté. Ils n'ont plus qu'une issue, le sommet, qui les surmonte encore de 300 mètres. À Chamonix, nous avons réussi à joindre Simone Desmaisons, la femme du chef de cordée.
Il est actuellement à 300 mètres du sommet, une paroi entièrement surplombante. Il est donc exclu maintenant qu'il puisse redescendre en rappel. Si le mauvais temps s'est sévissé encore davantage, il faut qu'il sorte par le sommet. Les 300 derniers mètres qu'il reste à faire sont entièrement verglacés. Le rocher est compact, ça pitonne très difficilement et l'assurance est très précaire. Il faut donc aller très doucement et il compte mettre encore au moins 2 jours pour atteindre le sommet. Au minimum, je viens de prendre la météo à Lyon et ils m'ont dit que ce soir une perturbation arrivait. Donc dans la nuit, il y aura du mauvais temps, de la neige et demain, ça sera un temps mauvais également. Je suis très inquiète parce que je devais entendre mon mari avec le talkie-walkie à 11h, je ne l'ai pas entendu. Après, c'est toutes les demi-heures, à 11h30, je ne l'ai pas eu.
Quand l'avez-vous eu pour la dernière fois?
Hier à 4h, où ils étaient dans un passage extrêmement difficile parce qu'ils avaient 50 mètres d'un mur de glace complètement vertical à franchir pour atteindre un point de bivouac possible.
Vous donnait-il l'impression d'avoir bon moral?
Oui, mais René a toujours bon moral. René est un homme qui est fait pour vaincre.
Deux jours après, il n'était pas au sommet. Ce qu'on vient d'entendre est une archive du 15 février 1971. 10 jours plus tard, le 25 février, on est au 10e jour d'incertitude. On sait qu'ils sont en grave difficulté. On sait qu'ils n'ont plus rien à manger cette fois. Ils avaient 6 jours de nourriture. On va écouter un récit de Christian Brincourt dans le journal de ce 25 février 1971. C'est l'édition de 12h45.
Depuis 10 jours, les deux hommes sont aux prises avec des blocs de granit disposés la plupart du temps en surplomb et des plaques de glace noire extrêmement dures qui cassent les pointes de crampons et l'acier des piolets. De surcroît, Desmaisons doit tirer un sac de matériel et de vivres pesant plus de 40 à 45 kilos. Pour dormir, les deux hommes doivent pitonner, c'est-à-dire planter des clous dans le rocher ou la glace, disposer leurs cordes de rappel sous les cuisses, autour de la taille, et tenter ainsi de somnoler 2 ou 3 heures par nuit, ballottés tels 2 araignées le long d'une gigantesque vitre.
Alors qu'il fait moins 15 à moins 20.
Actuellement, il doit faire moins 30 à moins 35.
La nuit.
La nuit, oui, bien sûr.
Avec un vent très fort.
Avec un vent très très fort qui souffle parfois à 100 km/h. La nourriture se compose essentiellement de fruits secs, de saucissons et de chocolat, mais ces vivres ont-ils pu les répartir sur les 4 jours qui viennent de s'écouler ? Pas question de faire cuire un repas chaud, vous en doutez, dans ces conditions. Ce qui est inquiétant, je pense, aujourd'hui, c'est de savoir que les deux hommes ont atteint maintenant, puisqu'ils sont, je crois, à 200 mètres du sommet, un point de non-retour, car ils ont passé les grands et terribles surplombs et ils ne peuvent plus redescendre par le bas sans être pendus dans le vide au bout de leurs cordes. Donc, 10 jours dans les Jorats, c'est beaucoup, c'est très difficile, surtout dans le mauvais temps. Mais lorsque l'on sait que René de Maison est l'un des meilleurs guides mondiaux, on peut tout espérer.
Et le drame, bien sûr, c'est que les hélicoptères ne peuvent pas arriver à se poser près des deux hommes parce que il y a des vents d'une centaine de kilomètres heure de force qui les empêchent donc d'amener des secours. On va faire une première pause et avec Antoine Chandelier et Christian Brincourt, on va vous dire dans un instant pourquoi ce qui aurait dû être un exploit de plus s'est transformé en drame.
14h-15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
René Desmaisons, c'est notre fil rouge aujourd'hui pour parler d'un certain nombre de drames qui se sont produits en montagne dans les années 1960-1970. RTL et son standard 3210 sont à votre disposition, vous le savez, comme tous les jours, pour vos questions, vos réactions, vos témoignages. Et on a déjà des appels qui arrivent, également sur rtl.fr. Alors, je rappelle Antoine Chandelier, donc vous venez de publier aux éditions Guérin, en fait, la biographie de René Desmaisons, La montagne en direct. Vous évoquez très longuement ce drame des Grandes Jorats. Comment une aventure qui aurait dû se solder par un exploit finalement comme les autres, quoi, pour lui, va se transformer en drame?
Déjà, c'est il faut dire l'entreprise peut-être la plus difficile que René Desmaisons ait tentée à ce jour. Puis on arrive à un moment où Desmaisons est en rupture avec la vallée de Chamonix. Dans le milieu de l'alpinisme, c'est le plus fort.
Ouais.
Il vend la montagne. Il vend ses performances, comme les marins vendent leurs performances en mer. Et avec son caractère, il faut dire qu'il a du mal aussi à trouver des compagnons cordés à sa mesure, qui soient susceptibles de l'assurer dans ses entreprises. Là, le destin va se tramer de manière très tragique. C'est qu'il part avec ce jeune René... Serge Gousseau, jeune guide qu'il ne connaît pas, avec qui il n'a jamais grimpé. Et c'est avec lui qu'il va entreprendre cette grande aventure, cette entreprise qui est la plus difficile qu'il ait jamais tentée.
Ouais.
Il y a pas mal d'incertitudes. Et peu à peu, ils vont atteindre le point de non-retour et ils vont le franchir. Et Desmaisons, on va peut-être pas mesurer tous les signaux qui vont s'allumer, qui vont lui dire il faut faire demi-tour. Dans sa fierté, dans sa rivalité aussi qu'il a avec la vallée de Chamonix,
les guides,
il faut savoir qu'à l'époque, c'est les guides qui font le secours en montagne à Chamonix.
Ouais. Il ne veut pas qu'on vienne le chercher.
Et voilà.
Ouais. Et alors, Christian Brincourt, il y a une chose qu'on découvrira beaucoup plus tard, c'est que Serge Gousseau était malade.
Ben Serge n'était pas en très bonne santé et il l'avait pas vraiment laissé entendre à René. C'est-à-dire que René s'est embarqué dans cette histoire avec un garçon qui était certes un excellent grimpeur.
Oui.
Certes, il avait son diplôme de guide. C'était un professionnel de la montagne qui emmenait les clients dans les courses, etc. Mais qui avait une certaine fragilité au niveau de la santé.
Oui.
Et ce qui s'est passé, en fait, en faisant une synthèse, si vous voulez, c'est que après quelques jours d'ascension extrêmement difficile, parce qu'il faut, il faut quand même situer, j'imagine, les gens devant leur poste, les Grandes Jorats, j'en ai entendu parler, mais qu'est-ce que c'est les Grandes Jorats? C'est une muraille, une face nord, extrêmement difficile, avec deux piliers, notamment la fameuse Walker, le pilier Walker, c'était le but recherché par René, car ce pilier n'avait jamais été grandi. Gravi, je veux dire,
donc
dans ces conditions et à cette époque de l'année.
Quand il fait beau, c'est déjà difficile.
Quand il fait beau, c'est déjà dur. Mais là en plein hiver,
il y a la tempête,
en février,
c'est
du moins 30, moins 40.
Ouais.
C'est de la glace dure comme du marbre, c'est du rocher noir, c'est la verticalité absolue.
Ouais.
Et l'effort est considérable. Et Serge va tout doucement vers la mort et René le subodore, mais pense qu'ils vont pouvoir sortir à temps.
Voilà.
Pour pouvoir vaincre.
Ce qui explique peut-être justement qu'il n'appelle pas à l'aide clairement. Hein, c'est ça, parce que toute la polémique va tourner autour de ça, Antoine Chandelier.
Oui, tout à fait. Ouais. Bah, c'est sa fierté aussi.
Ouais. Parce que les hélicos s'approchent, les voient, les deux hommes.
Voilà, ce qui est terrible, c'est que presque il les touche. Hein.
Sur quelques mètres.
Et il y a toute une espèce de malentendu qui va se tramer. C'est-à-dire que Desmaisons a toujours donné l'habitude de sortir de ses aventures.
Ouais.
Hein, il a un surnom, c'est qu'il y a un proverbe, hein, quand deux maisons partent en montagne, le temps va se gâter. Vous voyez,
ouais,
c'est l'homme qui grimpe plus vite que les tempêtes. Hein.
Et là, l'hélico lui fait signe, il répond à ses signes, mais on interprète comme s'il disait bonjour, tout va bien. Quoi.
Voilà,
alors qu'en fait, on ne voit jamais l'autre.
Qui est encore plus cynique, c'est que deux maisons, tout à l'heure, on a parlé de 300 mètres, mais ils vont réussir à parvenir jusqu'à 80 mètres du sommet. C'est très peu, c'est deux longueurs de corde.
Ouais.
Là, deux maisons installent Arim Gousseau à un piton, où il va vivre ses dernières heures. Et il commence à installer la sortie. Il équipe une corde, ce qui va faire dire aussi aux secouristes, corde est équipée, ça y est, ils vont sortir.
Voilà.
Ce qui va ajouter au malentendu.
Ouais, voilà. Et alors, là, on va entendre un extrait du journal du 25 février 1971. C'est l'édition de 19h sur RTL. Et en ouverture du journal, Christian Brincourt annonce l'épilogue du drame.
Gousseau est mort, des maisons est vivant. À 3h cet après-midi, le rescapé a été transporté à l'hôpital de Chamonix et le corps de Gousseau descendu dans la vallée. Au milieu de la journée, une équipe réduite avait pu être posée au sommet des Grandes Jorasses. Gérard de Voissou, le chef des guides de Chamonix, suspendu au bout d'un filin, descendait lentement pendant 80 mètres pour rejoindre les deux alpinistes bloqués depuis 16 jours. Arrivé dans l'anfractuosité de la roche qui leur servait de refuge, il réclamait aux gendarmes et aux guides restés au sommet qu'on lui envoie une civière. C'est ainsi que l'on sut tout d'abord que l'un des deux était blessé, puis que l'on a appris sa mort. C'était Gousseau, mort depuis 3 jours. Desmaisons, à cause de son entraînement, de son endurance, de sa carrure athlétique, survivait. De Voissou l'a aussitôt aidé à remonter au sommet, et quelques minutes après, un hélicoptère les posait en bas à Chamonix.
Une pause et on retrouve nos invités.
14h-15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
On parle de René Demaison, donc star de l'alpinisme mondial à son époque, dans les années 60-70, à l'occasion de la publication aux éditions Guérin par Antoine Chandelier d'un livre « La montagne en direct, la vie de René Demaison ». J'en profite pour dire que c'est un livre absolument somptueux. Le compliment est vraiment gratuit, mais je le pense, et c'est une très bonne idée de cadeau si vous connaissez des gens qui sont passionnés de montagne. C'est la même maison d'édition que celle dans laquelle, Christian Brincourt, vous aviez publié Envoyé spécial il y a 5 ans, je crois.
C'est-à-dire le fameux livre rouge, comme on dit.
Voilà, ce sont des formidables parce qu'il y a aussi beaucoup de place laissée à l'iconographie, aux photos, et on peut vraiment faire une plongée dans l'époque dont on parle. Alors, on va tout de suite revenir à René Demaison. On va écouter, c'est un document qui montre d'ailleurs que les journalistes sont prêts à avoir beaucoup d'imagination pour ramener le document à leur rédaction, ce que vous avez fait, Christian Brincourt. On dira dans quelles circonstances vous avez réussi à pénétrer dans la chambre d'hôpital où venait d'être amené René Demaison.
Il y a 35 ans de cela.
Alors on va écouter.
René, ici, seul dans ta chambre, tu dois revoir le film de l'ascension. Est-ce que tu peux, en quelques mots, je ne veux pas te fatiguer, mais est-ce que tu peux me dire ce qui s'est passé?
C'est difficile, c'est une tragédie, tu sais.
C'était plus dur que le linceul?
C'est autre chose, parce que mon compagnon, je l'ai vu mourir progressivement, tu sais. Il fallait monter, il ne peut plus descendre. On ne peut plus descendre, il est coupé par les pierres déjà plusieurs fois. Il avait les deux mains gelées, ses deux mains, c'est des moignons, il ne peut plus s'en servir. Et là, chaque homme meurt, il fallait que je le glisse à la corde, je vais te dire, c'était affreux.
J'ai dû le tirer?
J'ai dû le tirer avant 2 jours, oui. Jusqu'au moment où on s'est arrêté pour qu'il meure, quoi. Moi, je suis resté avec lui parce que je ne voulais pas le quitter à seul.
Que lui disais-tu dans la paroi?
Ben, je lui disais, t'inquiète pas, ça s'arrange tes mains, tu vas m'en sortir. Puis, je voyais bien qu'il était perdu, que j'allais mourir. Alors, je ne peux plus encore m'enfuir, bien sûr. J'avais presque pas de le laisser là, des chutes de secours, mais je l'ai pas vu parce que j'ai attendu mon devoir de rester avec lui. C'était pour une histoire, une tragédie épouvantable.
Serge est mort quand? Tu n'as aucune notion des dates, bien sûr.
Approximativement, si je suis resté 4 jours sans lui, quand il est mort, et je ne suis resté 4 jours à la paroi après, seul, à côté de son cadavre, à côté de lui.
Il n'a pas souffert, je crois, il est mort en dormant.
Non, il n'est pas en dormant, c'était le soir. Il y a l'hélicoptère qui est arrivé, il m'a dit, mais il vient nous chercher, l'hélicoptère René. Je lui ai dit, écoute, il vient nous chercher, il m'a dit, mais tu as demandé au pilote, comment est-ce qu'il venait? Je lui ai dit, oui, je demandé au pilote, mais le tien, il arrive derrière. J'ai appris celui-là, tu vois, qui passe devant. puis divorce-moi là.
Comment vous aviez pénétré dans cette chambre d'hôpital, Christian Bragoulard ?
J'ai fait mon boulot, c'est-à-dire que c'était absolument interdit d'accéder à René parce qu'il y avait une enquête judiciaire.
Là, on était le 26 février.
Il ne faut pas oublier qu'il est resté 17 jours dans cette paroi verticale avec son copain mort près de lui.
Dans les derniers jours.
Serge était mort 3 jours plus tôt et il est resté 17 jours ficelé à la paroi, non pas allongé, mais debout.
Dormait debout, attaché à la paroi.
Le tenait ficelé à la paroi face au vide. Il avait 900 mètres de vide absolu avec des bourrasques de vent qui montaient vers lui par moins 30. Je veux simplement souligner souligner l'honneur de René parce que on a trop dit de mal sur lui. Ce que je sais, parce que c'était mon ami, et c'est tout, c'est le journaliste, mais aussi le copain qui parle, c'est que René ne voulait pas abandonner son ami seul, mort, dans la paroi. Il voulait rester auprès de lui. C'est pour ça qu'il attendait les secours. Il y a eu une confusion dans les gestes. Normalement, le règlement des guides dit lorsque l'on demande du secours, on lève les deux bras. Là, l'hélico aurait su qu'il demandait des secours. En fait, il a levé un bras, il était usé par la fatigue, il urinait sur lui depuis 17 jours, il était face à la mort. Lorsque je l'interviewe sur son lit d'hôpital, il avait 2,80 g d'urée dans le sang, il était cliniquement mort. Ce que vous venez d'entendre, normalement, il était mort.
Il aurait dû mourir,
Et je voudrais simplement souligner l'honneur qui reste à mon copain, qui a tout fait pour rester auprès de son ami mort auprès de lui.
Alors, vous, Antoine Chandelier, vous évoquez très longuement, c'est le fil rouge de votre livre, mais vous racontez toute la vie de René de Maison. Mais pour terminer sur cette affaire du drame des Grandes Jorasses, il n'a pas été inculpé, mais on a voulu l'inculper à un moment d'homicide involontaire. Finalement, la justice n'a pas retenu cela, mais il s'en est jamais guéri tout à fait lui-même.
Pour lui, ça restera un grand traumatisme. Il a perdu un compagnon de cordée, déjà. Et puis pour lui aussi, c'est une tragédie qui marque un peu ses relations avec le monde de la montagne et Chamonix. Il faut savoir qu'à l'époque...
Il va être destitué, après il va être viré, si j'ose dire.
Je dirais que c'est 5 ans auparavant qu'il a déjà été...
Déjà une première fois,
oui. Viré de la compagnie des guides.
La compagnie des guides de Chamonix
pour
à la
secours,
suite de l'affaire des Drus.
Pour un secours auquel il va participer en franc-tireur et où il va... littéralement être rival avec la compagnie des guides. Il va aller secourir deux Allemands au nez à la barbe des guides. Un secours, une opération qu'il va mener à bien, mais aussi qu'il va médiatiser.
Il va vendre les photos à Paris Match, en gros, quoi, en descendant.
C'était très très mal compris et admis parmi le milieu des guides.
Voilà, vu le code d'honneur, il va être, bon, aussi pour un certain nombre d'opérations et sa façon de faire de la montagne, la compagnie des guides va l'exclure. Et quelque part, c'est le premier acte du drame des Grandes Jorasses qui va se nouer 5 ans plus tard, puisque quand de Maison va être là-haut sur sa vire, à 80 mètres du sommet, et on va l'accuser d'avoir entraîné Gousseau avec lui dans cette aventure, lui va dire « Non, c'est vous, les secours, qui n'êtes pas venus nous chercher, qui n'avez pas compris, et quelque part, vous me faites payer le secours des Drus. Quand je vous ai piqué les deux Allemands, j'ai sauvé les deux Allemands, ce que vous n'avez pas été capable de faire. »
Il faut rappeler que Maurice Herzog, qui était maire de Chamonix, était le patron. En tant que maire, il était l'homme, le héros de l'Annapurna, avec Lachenal. Je sais qu'il nous écoute aujourd'hui, c'est pour ça qu'il me plaît de souligner sa présence. Et c'est Maurice Herzog donc, qui était le responsable des secours. Mais jamais Maurice Herzog n'a voulu retarder les secours comme cela a été écrit de part et d'autre.
C'est intéressant parce qu'on a deux conceptions de la montagne, deux figures. Maurice Herzog, grand notable, ministre des Sports, qui représente le maire de Chamonix, qui représente l'institution. Et puis on a De Maison, le rebelle, la modernité. Et à travers ces deux secours, à une époque où le système de secours n'est pas encore abouti, c'est une société locale où tout n'est pas très clair, avec plusieurs intervenants, les guides de Chamonix qui ne sont pas professionnels.
Et puis ce n'est pas un gars de la vallée, c'est très important ça.
Alors, on va faire une nouvelle pause parce que je voudrais qu'on prenne un peu de temps pour parler de notamment deux événements. On reviendra, si vous voulez, d'ailleurs, sur le sauvetage des deux Allemands, parce que ça a été une fracture, quand même. Juste 6 mois avant le sauvetage de ces deux Allemands, un avion de ligne, un Boeing 707 de la compagnie Air India, s'est crashé sur le Mont Blanc, sur une arête quasiment à la frontière entre l'Italie et la France. C'est peut-être intéressant d'évoquer ce fait divers pour mieux comprendre la personnalité de René de Maison, parce que Était-ce un accident? Était-ce une erreur des pilotes? Ou était-ce une affaire d'État? On avait parlé d'une collision éventuelle de cet avion de ligne avec un avion de chasse italien. Et De Maison n'a eu que de cesse que d'y aller, sans demander l'avis de personne d'ailleurs, pour aller sur place étudier les pièces de l'avion qui était dispersé sur la montagne, peut-être pour prouver qu'il y avait derrière un scoop et que c'était une affaire d'État. Alors, en était-ce une ou pas? Vous allez avoir la réponse dans un tout petit instant.
14h, 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
On a également des réactions, plus des réactions d'ailleurs que des questions sur à propos de René de Maison au 3210, le standard d'RTL et sur RTL.fr. Alors c'est vrai, un certain nombre d'alpinistes et aussi de gens qui vivent dans la région de Chamonix nous appellent pour dire, mais enfin comme là en l'occurrence François qui nous dit, moi j'ai très bien connu René de Maison, je suis un peu déçu qu'on ne parle pas de lui de façon plus valorisante. C'était un type bien. Et je crois que vous partagez tous les deux cette
Je crois qu'aujourd'hui, deux années après, les jeunes générations vouent un culte à René de Maison. Hein. C'est lui qui est un peu l'inventeur de l'alpinisme moderne. Et, ouais, ses cicatrices sont un peu effacées quand même.
C'était la grande classe, René.
Et Jean-Louis nous a appelé aussi pour dire, quand il était étudiant, l'un de ses amis, quand Jean-Louis était étudiant, l'un de ses amis qui avait connu de Maison lui a raconté qu'avant de faire ses grandes courses, de Maison dormait les mains à l'extérieur grâce à des trous faits dans la cloison en vue de s'habituer au froid. Alors c'est de la légende, ça, ou c'est de la réalité?
Non, c'est la réalité. Ouais. Moi, j'ai connu Bonatti qui faisait la même chose. Walter Bonatti, le grand guide italien, ouais, qui s'endurcissait les mains en dormant les doigts enfoncés dans la neige sur son balcon. Il arrivait à dormir les doigts enfoncés dans la neige. Ouais. Par le temps qu'il fait aujourd'hui, mon cher Jacques, oui, vous imaginez la suite.
Oui, c'est ça. Aller dormir sur le balcon. Quoi.
Beaucoup d'alpinistes dormaient dans un hamac sur leur balcon. C'est une façon de s'endurcir.
Alors là, on va parler du René de Maison aventurier, finalement, avec cette anecdote que je rappelais il y a un instant. Le 24 janvier 1966, un Boeing 707 d'Air India s'écrase à 4700 mètres d'altitude, donc sur une arête du Mont Blanc qui fait frontière avec l'Italie, comme je le disais. Et il y a 117 morts, pas de survivants. À bord, il y a un physicien qui est le père du programme nucléaire indien, il s'appelait Baba, et ça donne un parfum d'affaire d'État, peut-être déjà au truc, en disant, est-ce que ça n'est pas finalement un attentat pour se débarrasser du père du programme nucléaire indien? Et puis ensuite, il y a une autre rumeur qui naît, qui se répand assez vite, mais il y aurait un avion de l'OTAN qui serait entré en collision avec cet appareil. On s'apercevra plus tard, disons-le tout de suite, Antoine Chandelier, que non, c'était un accident et qu'il n'y avait pas eu d'avion qui avait décollé le même jour. Quoi.
Du moins, au vu des éléments que j'ai rassemblés, ouais, c'est la
thèse. Ce que vous dites dans votre livre, puisque vous y consacrez pas mal de place. Mmh. Hein. Mais ça n'empêche pas de Maison d'avoir envie d'en avoir le carnet, alors.
C'est déjà toute la dimension de l'aventurier de Maison, hein, qui est. Il a une âme d'enfant aussi de Maison. Hein. C'est quelqu'un qui fait des choses effroyables, hein, une résistance hors du commun. Et en même temps, il a cet esprit d'enfant. Hein. Il est attiré par le mystère. Les grands mythes. Oui. Et là, il en a trouvé un à sa mesure sur son terrain de prédiction, la haute montagne. Oui. Voilà, la rumeur court qu'un avion militaire italien aurait percuté le Boeing. Oui. Et lui, tout de suite, il monte avec le RTF une expédition, une contre-enquête même, hein, oui, en versant italien pour aller chercher les pièces.
Sans demander l'avis de personne, parce que évidemment, la zone est interdite, hein, de survol et de présence.
Tout à fait.
Et ça, c'est très mal vu.
Et ce qui va être d'autant plus mal perçu côté italien, c'est qu'il fait ça en collaboration avec un organe d'État, le RTF.
C'est ça. Donc, il va provoquer quelques tensions
diplomatiques des deux côtés, ouais, et qui va aussi donner l'impression qu'on veut étouffer cette contre-enquête. Ouais. Et, ouais. Brèche dans laquelle De Maison va s'engouffrer, vous voyez, hein, on veut étouffer la vérité, on veut museler affaire d'État.
Alors certains j'ai disent, un souvenir visuel, moi, de ça, ouais, parce que lorsque le Boeing se crache, la dépêche tombe immédiatement, je pars pour Genève, pour RTL, bien sûr, et je loue un petit avion de tourisme à Genève, et avec Gérard Géry de Paris Match, nous survolons le sommet 2h30 après l'impact. Ouais. Et j'ai le souvenir de cette neige piquetée de noir, comme du mâche-fer, c'est l'avion qui a explosé, ouais, avec les corps des passagers que nous survolons, et je me souviens très bien d'un détail qui m'a frappé, dont je pense encore à ça quelquefois, c'est qu'il y avait des petits corps de singes morts sur la neige, ouais. Car c'était des singes qui venaient du Bengale pour être
l'avion
pour
aux
l'expérimentation ouais. animale ouais. et les cages avaient explosé et les petits corps des singes morts sur la neige ouais. au milieu bien entendu ouais. du corps des passagers. Alors, c'était terrible, c'est un souvenir que je garde profondément. Et ce qu'il faut souligner, Jacques, c'est que 20 ans plus tard, un autre avion d'Air India
Absolument,
s'était
ouais.
crashé au ouais. même endroit, la même compagnie,
ouais.
mais c'était là un avion à hélice, alors là que c'était un quadri-réacteur,
ouais.
et au même moment, au même impact, sous la même arête du Mont-Blanc, ouais. d'autres passagers avaient trouvé la mort au même endroit, avion de la même compagnie Air India.
On va faire une nouvelle pause dans cette émission et dans un
instant. Ça s'appelle le Malabar Princess.
Le Malabar Princess, c'était le nom de cet avion, effectivement, qui s'était crashé quasiment au même endroit. Une pause donc, et puis ensuite on va évoquer cette grande première mondiale à l'époque. Pour la première fois, des alpinistes allaient être équipés de micro-émetteurs et les auditeurs d'RTL allaient pouvoir assister quasiment en direct à l'ascension d'une paroi terrible. 1000 mètres de glace, on l'appelle là-bas, près de Chamonix, le linceul.
14h-15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et on parle de René de Maison, ce grand alpiniste, avec Antoine Chandelier et Christian Brincourt. Antoine Chandelier vient de publier un livre très intéressant sur la vie de René de Maison, s'appelle La Montagne en direct, un beau livre, comme on dit, aux éditions Guérin. Et Christian Brincourt, à l'époque, était grand reporter ici, dans cette maison. Et on va d'ailleurs parler maintenant d'une aventure que vous avez suscitée. Finalement, c'était une première mondiale. On est au début de l'année 1968, au moment où la France s'ennuie.
Janvier 68. Hein,
pour
oui.
qu'elle ne s'ennuie pas.
Avant les événements de mai.
Voilà, et vous proposez à De Maison et à un autre alpiniste qui s'appelle Robert Flemati de tenter une première hivernale, l'ascension du linceul au Grand Jorasse, donc. Oui. Fait partie du même massif.
Ça,
mais équipé pour oui. que les auditeurs puissent suivre la progression.
Tout ça ouais. commence autour d'une petite bouffe chez Savi, chez le restaurant devant Radio Luxembourg, ici que tous les journalistes connaissent depuis des décennies.
Oui.
Et nous sommes en tête à tête avec René. Je lui dis, qu'est-ce que tu prépares? Il me dit, moi je voudrais tenter le linceul qui n'a jamais été gravi. C'est un glacier suspendu qui, comme vous le disiez tout à l'heure, Jacques, représente à peu près 3,5 fois la tour Eiffel en hauteur. C'est du 70 degrés d'inclinaison. C'est de la glace dure comme du marbre de Carrare.
Et c'est tout blanc, ça se détache.
C'est gris.
Paroi, c'est pour ça qu'on appelle
gris,
ça
gris,
le linceul.
Blanc, ouais. Gris blanc, ça ne voit ouais. jamais le soleil.
Ouais.
C'est un piège. C'est un piège épouvantable qu'il faut gravir en taillant des marches dans la glace à l'aide de piolets. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, les crampons que vous pouvez voir à la télévision aujourd'hui ne sont pas équipés de pointes avant.
Ouais.
C'est-à-dire les pointes sont latérales sur le bord de la chaussure. Ce qui veut dire en clair qu'il faut tailler des marches au piolet
ouais.
avec un piolet droit et non pas incurvé comme aujourd'hui.
Ouais.
J'ai l'impression de parler du Moyen-Âge.
Pour ceux qui ne connaissent pas le monde de la montagne.
Ouais. Pour que les gens qui nous écoutent ouais. Ouais. réalisent que ça
représente. Ça veut dire quand on fait 10 mètres par jour, on est content alors.
Ils ont taillé 3700 marches, pour vous dire, à la main sur une paroi verticale.
Il
faut être un
ouais.
peu dingue. Hein.
Ouais.
C'est quelque chose. Et je lui dis, et si tu acceptais un émetteur, nous ferions une émission pour Radio Luxembourg, mmh. RTL, en direct, 3 fois par jour. Il me dit, banco, on le tente, et nous l'avons fait.
Ouais. Alors, vous en parlez de cette aventure, Antoine Chandelier, dans votre livre, parce que c'est un grand moment également, encore une fois.
Quelque part, c'est en gravissant le linceul que De Maison a repéré cette fameuse directe dans la Walker qu'il doit faire, qu'il va tenter 3 ans après et qui va être le théâtre du drame.
Avec la mort
en fait.
De Serge, oui.
Ouais.
Voilà, il repère, il
tout est lié, quoi, finalement,
ligne, hein,
entre le sauvetage des deux Allemands, cette aventure de 1968, et puis après 1968,
hein. Le linceul avec Christian, c'est aussi le paroxysme. De maisons professionnelles professionnelles du vide qui médiatise
ouais.
et qui encore aiguise un petit peu les tensions et les haines, les rancœurs.
Alors il ne faut pas oublier qu'il est quand même accompagné d'un guide qui s'appelle Romer Flemati, qui est l'un de ses copains qui sont compagnons de cordée.
Ouais.
Ils sont deux dans le
Bien
paroi,
sûr,
parce
absolument.
Qu'on parle beaucoup de René, mais il faut quand même
ouais.
souligner la présence
ouais.
de Flemati qui fait un boulot considérable. Ils ont chacun un sac de 50 kilos, plus l'émetteur de la radio à
ouais.
sortir 3 fois par jour, ce qui prend un temps considérable jusqu'au moment où ils sont pris par le mauvais temps.
Ouais.
Car ce qui devait durer
aussi,
3
voilà.
jours dure 11 jours. Moi, je suis dans un refuge à 3005, au refuge de l'Échaud. Je suis en liaison directe avec eux. Je dois descendre sur le glacier à chaque fois.
C'est un exploit technique mètres. À l'époque. Hein, il faut
oui,
dire, on
bon,
pas
c'est
les
un exploit technique,
hein,
c'est un exploit humain, c'est tout ouais. ce que l'on veut, mais c'est surtout une formidable histoire pour les auditeurs, ouais. car ils prennent leur petit déjeuner avec ouais. deux maisons qui, lui, est ouais. pendu à ses ouais. cordes dans un glacier qui n'a jamais été franchi.
Alors, je vais faire quelques déçus. On a cherché, évidemment, ce document dans les archives d'RTL avec Florian. On l'a pas trouvé.
Donc, alors, ça a disparu.
On espère simplement que c'est peut-être en réflexion. On est sur la piste, hein, quand même, parce que de temps
bien,
en temps,
c'est document.
Ces documents-là, il y a des médecins pour ça, spécialisés, hein, ouais. des médecins du son, qui s'occupent de ces bandes. On espère qu'elles sont en train
pour
d'être...
Pour rajeunir la qualité du son.
Voilà, alors on espère ça, mais par contre...
C'est
on
pas
a...
le numérique à l'époque, il n'y a pas de portable.
Hein. C'était entre le 17 et le 25 janvier 1968, mais par contre...
C'était une fantastique histoire.
Attendez, ça s'arrête le 25. Bon, pour l'instant, ces bandes, on ne les a pas. Mais le 26... On a un extrait sonore à vous faire entendre, mais c'est...
Vous avez quelque chose, quand même ?
Oui, René de Maison est de nouveau en direct sur RTL, mais là, ça y est, il est sorti de son ascension. Et c'est Jacques Ball, le présentateur antenne à Paris, il doit être près de vous. Et l'alpiniste, donc, va revenir sur cette ascension. Il parle d'ailleurs tout de suite de Robert Flemati. Écoutons-le.
Robert et moi l'alpinisme régulièrement parce que nous sommes guides de montagne, c'est notre métier. Nous faisons habituellement des hivernales tous les ans et nous avons une habitude du froid bien sûr, surtout de la moyenne de lutter contre le froid en haute altitude, mais ça c'est une expérience personnelle qui est obtenue par la mise au point de matériel, enfin de l'ensemble de choses. Et puis il faut vous dire que dans ce genre de sport, il y a aussi le moral, la volonté qui compte beaucoup plus que le reste. Je connaissais le linceul pour l'avoir vu depuis longtemps, depuis les shows. J'avais fait la walker à droite, qui sort en hiver aussi. Je savais que c'était un problème important parce que les alpinistes réputés avaient attaqué et avaient fait demi-tour. Mais je n'avais même jamais été au pied de la rimée, je dois le dire. Dans les conditions physiques, nous étions après 14 jours. En arrivant sur l'arrêt des Hirondelles, il y avait un vent tellement fort qui nous interdisait absolument toute progression vers le sommet. Il nous fallait absolument, coûte que coûte, redescendre par ce couloir, c'est-à-dire prendre le risque des avalanches. C'était notre seule chance de retour.
Et alors, Antoine Chandelier, j'ai découvert dans votre livre pourquoi on appelle l'arête des hirondelles l'arête des hirondelles.
Oui, tout à fait, parce que là-haut, il fait tellement froid qu'on a retrouvé des cadavres d'hirondelles qui ont voulu franchir cette... Il faut savoir que cette arête des hirondelles est l'arête frontière entre la France et l'Italie.
Oui.
Et en tentant de franchir cette arête qui a 3800 mètres d'altitude à peu près, ils ont gelé et puis ils sont...
Alors, donc là, on a...
C'est terrible, un oiseau qui gèle en vol.
Absolument. C'est pour ça,
ça
m'a vraiment marqué de découvrir ça. Mais il y a toujours une raison à tout aussi. Hein,
une raison à tout.
En montagne, c'est un peu comme au bord de la mer, où la crique du naufrage, le rocher des Espagnols, etc. Alors, il nous reste quelques minutes encore à passer ensemble. Je voulais évidemment qu'on s'arrête sur ces faits divers de la montagne qui ont vraiment bouleversé l'opinion, il faut dire, et en même temps apporté beaucoup d'admiration à René de Maison dans les années 60-70. Ça, c'est raconté dans le livre d'Antoine Chandelier, La montagne en direct. Il faut parler de ce qui s'est passé ensuite. Il y a eu un après Chamonix, si j'ose dire, et il s'est attaqué finalement à des montagnes plus lointaines, et c'était les Andes.
Tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est aussi que le drame des Grandes Jorasses a entraîné aussi une nouvelle façon de voir la montagne. Derrière une unité de secours qu'est le PGHM assure désormais, le secours en montagne, il a fallu une unité dépassionnée du contexte local.
Donc il
n'y a
pas plusieurs groupes comme ça s'était passé.
Voilà, parce qu'on a bien vu que dans l'affaire des Grandes Jorasses, il y avait beaucoup de sous-entendus liés à des contentieux. De Maison était en contentieux avec la compagnie des guides. Voilà. Donc là, avec des unités.
On a unifié les secours.
Et on les a professionnalisés. En fait, le 71, les Grandes Jorasses, c'est la dernière étape de professionnalisation d'un service public qu'est le secours en montagne aujourd'hui, avec le PGHM, des CRS qui interviennent selon les endroits des Alpes. Et après, de Maison, mais c'est là où on va voir tout le talent de l'alpiniste et le novateur, ce qu'il a apporté. Il a fait évoluer le matériel et surtout il a passé le relais aux jeunes générations.
Ouais.
Aujourd'hui,
vous parlez dans votre livre de Christophe Profit notamment.
Profit qui après va être la figure des années 80-90.
Ouais.
On appelle l'alpinisme nos limites. Qui va enchaîner les parois, les faces nord.
Qui a fait le linceul en 3h30.
Une simple phrase, oui. De Maison fait le linceul en 11 jours avec Flemati et Christophe le fait en 3h30.
Voilà. Mais avec un matériel évidemment
avec un matériel différent.
Et il y a le sens de l'engagement aussi de Maison. C'est qu'à l'époque, avant de Maison, une ascension, c'était très lourd en montagne. On cambrait beaucoup de matériel. De Maison va contribuer à alléger les alpinistes, à ce qu'ils aillent plus vite. Moins on passe de temps en montagne, moins on est l'objet de risque naturel.
Ouais.
C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le style alpin. Voilà, ouais. Et cet alpinisme-là, que l'on pratique léger, rapide, ouais. Il va un petit peu commencer à le transposer dans les Andes et à passer le relais aux alpinismes plus sportifs que l'on a connus plus tard.
Et à redescendre dans les vallées en aile volante, etc. Enfin, c'est un homme qui a vécu avec son temps jusqu'au bout. Quoi,
de Maison en fait, était à l'affût de tout ce qui était moderne, nouveau, le parapente.
Je voudrais souligner un détail, Jacques, si c'est possible, c'est
que Christian.
À la fameuse fête des guides le 15 août, qui est vraiment la quintessence de la compagnie des guides de Chamonix, ceci après avoir exclu à la suite du sauvetage des Drues où René avait vendu ses photos à Paris Match, il avait donc été exclu de la compagnie, il a été honoré 20 ans plus tard par la même compagnie des guides.
Réintégré quoi en fait.
Il n'a pas été réintégré, on lui a rendu hommage devant le public
lui.
Et c'est très important pour son honneur et René est mort d'un cancer à l'hôpital de la Tilone à Marseille. Je l'ai au téléphone 3 jours avant la fin
Lui
garde une profonde amitié et beaucoup d'admiration.
Il aurait pu mourir
alors qu'il devait mourir 200 fois en montagne.
En montagne, voilà. On va en rester là, je vous remercie beaucoup d'avoir évoqué avec nous cette grande figure de l'alpinisme qui montre d'abord que dans cette émission L'Heure du Crime, on ne parle pas que de crimes de sang mais on parle aussi des faits divers et des grands faits divers et quelquefois on a toujours envie de savoir mais que sont devenus les gens après qu'on en ait comme ça parlé à la une des journaux. Ben voilà, vous en savez plus sur René de Maison. Je vous recommande le livre d'Antoine Chandelier qui était mon invité, La Montagne en direct aux éditions Guérin et le livre de Christian Brincourt, même maison d'édition, édition Guérin, envoyé spécial à lire et on le trouve toujours en librairie.
Du Mont Blanc à l'Everest.
Voilà. Pause tout de suite et on retrouvera Flavie Flamand dans quelques instants.
14h-15h, Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime.